Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il va revêtir de son esprit. Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il va revêtir de son esprit. Brisés, soyez guéris et restaurés. Captifs, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Et le autant d'une nuit de joie au lieu du cœur, un vêtement de bourreau au lieu d'un esprit entendu. Que le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Le Seigneur revêtu de son esprit, et l'on vous appellera chérubin de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le Seigneur m'a vint pour annoncer la bonne nouvelle.
Alléluia.
Le Seigneur m'a vint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu de son esprit. Le Seigneur m'a vint
pour annoncer. Alléluia.
Il m'a revêtu de son esprit.
Le Seigneur m'a vint pour annoncer ta bonne nouvelle.
Il m'a revêtu de son esprit.
Il est ma paix.
Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles.
Il est ma paix.
Gloire au Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs, nous dit la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Gloire à son saint nom. Le Seigneur est grand et merveilleux et nous pouvons vraiment nous confier en lui. Nous abandonner entre ses mains. Jamais nous ne serons déçus si nous lui livrons totalement nos vies. Jamais, jamais. Il n'a jamais déçu personne, le Seigneur. La parole de Dieu dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Si nous nous confions dans des hommes, nous serons toujours déçus. Mais si nous nous confions dans le Seigneur et sa parole, nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais qu'on voit ce matin un sujet important dans la parole de Dieu. Ce sujet se dégage d'un entretien que Jésus a eu avec un chef religieux, un homme religieux, un chef. Cet homme s'appelait Nicodème. C'est une histoire pleine d'enseignements que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nous trouvons ce récit du dialogue entre Jésus et Nicodème. Et vous allez le voir, Jésus annonce dans cet entretien une vérité capitale si nous voulons voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Si on vous pose la question, si je vous pose la question, si vous me posez la question, que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est là, bien sûr, la question la plus importante et auquel il faut une réponse précise, n'est-ce pas vrai? Et dans ce récit, Jésus nous donne la réponse. Nous allons lire le passage, mais la réponse est celle-ci. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Alors mon sujet ce matin sera la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, qui est une expérience indispensable pour être sauvé. La Bible donne plusieurs noms à cette expérience, la conversion, la régénération, la justification, le salut, le pardon. Tout cela explique un peu ce qu'est la nouvelle naissance, mais avec des nuances différentes. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'a rien compris, et pourtant c'était un chef religieux. Il enseignait le peuple et il n'a rien compris. Êtes-vous né de nouveau? Bien souvent, quand on pose cette question, les gens disent, mais monsieur, je crois en Dieu. Mais monsieur, je prie. Je n'ai pas posé cette question-là. Je n'ai pas demandé si vous priez ou pas. Êtes-vous né de nouveau? Mais monsieur, je vais à l'église. Mais monsieur, je ne suis quand même pas une païenne ou un païen. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Êtes-vous né de nouveau? Mais monsieur, je fais des œuvres, des bonnes œuvres. Mais monsieur, ça fait des générations que dans ma famille, on est tous religieux. Mais vous n'avez encore pas répondu à ma question. Êtes-vous né de nouveau? Bien souvent, lorsque quelqu'un, voyez-vous, répond comme cela, c'est que cette personne ne sait pas du tout ce que cela veut dire. Alors elle essaye bien sûr de se justifier, mais finalement elle révèle son ignorance. Et cependant, son ignorance sur un sujet capital, n'est-ce pas vrai? Sur un sujet vital, que nous devons tous connaître. Et Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Alors, c'est un impératif. Nous ne pouvons pas passer à côté, qui que nous soyons, moi le premier. Personne ne peut passer à côté si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. C'est un impératif. Nicodème était surpris, très surpris. Naître de nouveau, qu'est-ce que cela donc veut dire? Mais ce n'est pas possible. Naître de nouveau, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère? Mais ce n'est pas possible. Je suis déjà un vieillard. Voyez-vous, il ne comprenait pas. Mais que voulez-vous dire? Naître de nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous allons voir ce matin, mes amis. C'est très important. Non seulement cela est important pour vous, mais cela aussi est important pour que vous puissiez aussi conduire les autres à cette expérience indispensable de la nouvelle naissance. Si nous voulons, ou si cette personne veut être sauvée, c'est indispensable. Alors, voyons dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Lisons ce récit. Je crois qu'il est important de le lire. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. » Et vous savez, quand Jésus dit, avant une déclaration, en vérité, plusieurs fois nous voyons ça dans les évangiles, c'est une vérité capitale. Le mot veut dire en vérité, veut dire ici dans le texte, c'est amen, amen. Il en est ainsi, il en est ainsi. Il en sera ainsi. C'est indiscutable. Quand Jésus dit en vérité, dans le texte, c'est amen, amen. On ne discute pas ce que je dis. C'est catégorique. Ce n'est pas une option, c'est impératif. C'est le maître qui parle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, voyez encore une fois, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Ne sois pas étonné de cette déclaration, car Nicodème était vraiment étonné. Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, un chef religieux, un chef des Juifs. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, au verset 8, souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, voyez-vous encore, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et verset 14, encore 15 et 16. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous le remarquez donc, à plusieurs reprises, Nicodème est étonné. Et bien souvent, lorsque nous posons cette question à des personnes, ces personnes sont étonnées. Et elles se disent, mais pourquoi une telle question? Ne suis-je pas croyant? Est-ce que je ne vais pas à l'église? Est-ce que je ne prie pas? Remarquez-le bien, Jésus a posé cette question à Nicodème, qui était un docteur de la loi, un chef religieux. Donc c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. C'était quelqu'un qui allait à l'église régulièrement. C'est quelqu'un qui enseignait les autres. C'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui donnait sa dîme. C'était quelqu'un qui faisait des bonnes œuvres. C'était quelqu'un qui était exemplaire. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais Nicodème lui a peut-être dit, je ne sais pas, ou il voulait peut-être lui dire, mais tu te trompes de personne. C'est pas à moi que tu dois poser une telle question. On penserait, si Jésus avait posé cette question, par exemple, à Hérode, ou à Pilate, on pourrait penser que eux, ces païens, avaient besoin de naître de nouveau. Et qu'ils avaient besoin de changer de vie, ces païens, ces idolâtres. Mais Jésus, ce n'est pas à eux qu'il a posé cette question. C'est à un homme religieux. Autrement dit, nous pouvons être religieux, nous pouvons aller à l'église comme Nicodème, nous pouvons prier, nous pouvons donner la dîme, nous pouvons faire tout un tas de choses, nous pouvons être bien et cependant ne pas être de nouveau. Alors, il faut l'avouer, c'est vraiment bouleversant. Et le Seigneur voyait que Nicodème était bouleversé. Ne t'étonne pas. Certainement qu'il devait faire une drôle de tête, Nicodème. Il devait pâlir au fur et à mesure que Jésus lui parlait. Il devait pâlir. C'est pas possible, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'enseigne les autres. Je suis un chef. Mais tu t'es trompé, s'il te plaît. Mais Jésus ne s'est pas trompé. Et à combien de reprises il lui dit, en vérité, je te le dis. Je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance qui surprend les hommes religieux? Car il y a une différence entre la nouvelle naissance et être religieux, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'autrement, Jésus n'aurait pas dit à cet homme religieux qui croyait en Dieu, qu'il était né de nouveau. Il y a donc une différence entre être religieux et être né de nouveau. On peut être religieux et ne pas être né de nouveau. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Voyons d'abord ce qu'elle n'est pas. Premièrement, ce que n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une religion. N'est pas une religion. Alors, comme je l'ai dit, Nicodème était religieux. Il avait sa religion. Il pratiquait sa religion. Il faisait tout bien et il enseignait les autres. Autrement dit, la nouvelle naissance n'est pas une religion. Cela, il faut que ce soit bien clair. Car si nous pensons que notre religion peut nous sauver, nous nous faisons des illusions et nous risquons de perdre notre âme pour l'éternité. Donc la nouvelle naissance n'est pas une religion. Nicodème avait tout cela. Il était même exemplaire et cela ne suffisait pas. Votre religion, ma religion ne suffit pas. Alléluia. Alors, la nouvelle naissance, ce n'est pas une religion. La nouvelle naissance aussi, ce n'est pas être baptisé bébé. Attention. La nouvelle naissance, ce n'est pas être baptisé bébé, car on enseigne dans la religion, d'une manière générale, que lorsqu'un enfant est baptisé bébé, il est né de nouveau et il devient chrétien. Ça, c'est un mensonge qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. La Bible n'enseigne jamais cela. Donc, être né de nouveau, ça ne veut pas dire que quand j'étais bébé et qu'on m'a baptisé, je suis né de nouveau à ce moment-là. C'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça du tout la nouvelle naissance. Absolument pas ça. Alors, troisièmement, la nouvelle naissance n'est pas avoir une bonne moralité. Certains disent, mais puisque j'ai une bonne moralité, alors, n'est-ce pas cela la nouvelle naissance? Nicodème avait une très bonne moralité. Il était un exemple dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine moral. Nicodème était exemplaire. Personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit. Vous êtes d'accord avec moi? Et cependant, cela ne suffisait pas. Donc la nouvelle naissance n'est pas avoir une bonne moralité. Car dans ce domaine-là, beaucoup, écoutez-moi bien, c'est très important. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a eu beaucoup de peine avec qui dans les évangiles et dans sa vie? C'était précisément avec les gens religieux qui refusaient d'admettre qu'ils étaient pécheurs. Refusaient d'admettre que leur cœur était souillé, qu'aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas en ordre. Qu'ils étaient morts spirituellement. Et que quoi qu'ils fassent, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et chaque fois que le Seigneur parlait à ces gens-là, et qu'il leur disait quelque chose, en leur disant, mais vous paraissez bien extérieurement. Ah oui, en général, les gens religieux paraissent toujours bien extérieurement, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus, qui était un prophète aussi, et qui savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, non seulement il regardait l'apparence, mais il regardait ce qui est au fond du cœur. Et il leur disait bien souvent, vous paraissez juste extérieurement, mais à l'intérieur, ce n'est que méchanceté, que haine, que rapine. Alors vous pensez bien que lorsque ces gens religieux entendaient un tel message, alors là, ils n'étaient pas du tout contents. Ils disent, comment? Alors là, ils ont justement révélé leur cœur mauvais. Là, le Seigneur les a testés. Eux qui paraissaient si gentils, d'un seul coup, ils ont commencé à grincer des dents. Et ils n'ont pas pu cacher ce qu'il y avait dans leur cœur devant Jésus. Devant le Seigneur, mes amis, les masques tombent. Devant la pureté de Jésus. Devant la sainteté de Jésus. Devant la pureté de Jésus, les masques tombent. Devant l'amour parfait de Jésus. Devant la justice parfaite de Jésus. Devant le comportement parfait de Jésus, les masques tombent. Tous les hommes qui se sont approchés de Dieu dans la Bible, tous, n'ont pas pu le faire. Ou quand ils se sont approchés, ils sont tombés à genoux et ils ont réalisé leur état de pécheur devant Dieu. Les hommes qui se sont approchés de Dieu, quand ils ont vu Dieu dans sa sainteté, ils se sont tous écriés, « malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, je suis pécheur, je suis perdu !» Quand un homme est dans la présence de Dieu, il voit véritablement qui il est. Et c'est ce qui se passe avec les pharisiens, dans la présence même de Jésus, qui était pur, saint et sans tache. La noirceur de leur cœur, la méchanceté de leur cœur s'était révélée. Et ils n'étaient pas contents. Et c'est pourquoi ils grinçaient des dents et ils cherchaient les occasions pour le faire mourir. Ils cherchaient les occasions pour le faire mourir. Et cela, c'était dans le cœur des hommes religieux. Vous vous rendez compte? Des hommes religieux qui cherchent une occasion pour tuer, détruire Jésus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur d'un païen, mais dans le cœur d'un religieux, regardez tout ce qu'il y a, le crime. La méchanceté, la haine. C'était pas possible. Et c'est exactement, il y avait tout cela. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Et c'est ce que Nicodème avait de la peine à comprendre. Nicodème, être né de nouveau, ce n'est pas avoir une bonne moralité. Aux yeux des autres, tu parais juste. Mais devant Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Quand l'homme se compare à un autre homme, quand une femme se compare à une autre femme, alors on pense toujours que tout va bien, n'est-ce pas vrai? Bien souvent, on fait des comparaisons. On dit, oh là là, oui, mais, monsieur, hein, moi, oui, comme je me compare aux autres, hein, eh bien, il n'y a pas tellement de grand-chose à me redire. C'est vrai qu'on commet quelques petits péchés de temps en temps, mais c'est pas si grave que ça. À côté des autres, à côté des bandits, des criminels, c'est affreux ce qu'ils peuvent faire. Mais voyons, vous ne pouvez quand même pas me mettre au nombre de ces personnes-là. Une personne qui parle comme cela ne connaît pas son propre cœur. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Ce n'est pas donc une moralité. Et un autre point, la nouvelle naissance, ce n'est pas aussi une réformation. La nouvelle naissance n'est pas une réformation. Même si vous vous débarrassiez de toutes vos mauvaises habitudes, cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Il y en a combien qui pensent que, ah oui, mais je vais essayer de faire du bien maintenant. Tous les 1er janvier, voyez-vous, on prend des bonnes décisions. Et on se dit, ben maintenant, voilà, ça va aller. On a fait tant de mal ou tant de bien, mais on va essayer quand même de se réformer. Et certains pensent que c'est ça la nouvelle naissance, c'est se réformer. Mais ce n'est pas du tout ça. Même si vous vous débarrassiez de toutes vos mauvaises habitudes, vous seriez encore pas né de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? La nouvelle naissance n'est aussi pas un processus. Je veux aussi noter cela. Ce n'est pas un processus, c'est une expérience instantanée que nous faisons avec le Seigneur. Ce n'est pas un processus. Il y en a qui disent, oui, mais d'accord, mais monsieur, alors, la nouvelle naissance, donc, c'est quelque chose, que, c'est toute notre vie qu'on est de nouveau. Ah bon ? Ils sont toujours en train de naître toute leur vie. Ils n'arrivent jamais vraiment à naître, ils y mettent toute leur vie pour naître, vous vous rendez compte ? Et il y en a qui pensent que voilà, la nouvelle naissance est un processus. La nouvelle naissance n'est pas un processus, c'est une expérience précise et instantanée à un moment donné. Alléluia ! Es-tu né de nouveau ? Êtes-vous né de nouveau ? Alors qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Juste une petite définition pour vous montrer ce qu'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu communique sa nature. Dieu communique une nouvelle nature à celui, une nouvelle nature dans son cœur, à celui qui se repent de ses péchés et qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Autrement dit, la nouvelle naissance, c'est une communication de la nouvelle nature de Dieu en nous. C'est une communication d'une vie nouvelle. Voyez-vous, c'est cela la régénération. La régénération et la nouvelle naissance. C'est Dieu qui nous donne une nouvelle nature, une nouvelle vie. C'est un miracle. C'est un miracle. La nouvelle naissance est le plus grand miracle qui puisse exister. C'est Dieu par son esprit qui vient habiter en nous lorsque quelqu'un se repent de ses péchés, se détourne du mal qu'il a fait et accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est quand on reçoit Jésus dans sa vie qu'on a la vie, qu'une nouvelle nature vient en nous et qu'à partir de ce moment-là, on est né de nouveau. On devient un chrétien. Alors rappelez-vous bien de cela, cette définition importante. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est Dieu qui communique une nouvelle nature à celui qui se repent de son péché, qui est décidé à changer de vie et à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Ce n'est donc pas du tout une question de réformation. C'est une question de transformation par l'intérieur. C'est Dieu qui vient par son esprit, habiter en nous. Amen. C'est très important. C'est cela, la nouvelle naissance. Alors maintenant, pourquoi nous devons naître de nouveau ? Pourquoi ? Je vais donner quelques raisons maintenant. Pourquoi ? Alors nous devons naître de nouveau. Pourquoi une telle parole a-t-elle été adressée à Nicodème ? On peut se poser cette question, mais monsieur, quand même, je ne comprends pas pourquoi. Voyons. Je prie, je fais tout ce qu'il faut faire, je crois en Dieu et tout. Il y a plusieurs raisons importantes. Pourquoi nous devons naître de nouveau ? Premièrement, parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a commandé. Voilà une raison déjà absolument importante. Jean 3, 7, ne vous étonnez pas, vous devez naître de nouveau. Alors la première raison est celle-ci. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Parce que Jésus l'a commandé, c'est un commandement. Il faut que vous naissiez de nouveau, il le faut. Et Jésus ne se trompe pas, n'est-ce pas vrai? Êtes-vous né de nouveau? C'est Jésus qui l'a commandé. Ah oui, mais moi dans mon église on ne me dit pas ça. Si ton église ne dit pas ça, alors tu dois abandonner ce que l'église dit et accepter ce que Jésus dit. Parce que ce n'est pas ce que l'église dit qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup n'entreront pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont obéi à ce que l'église dit. Des multitudes seront perdues. Ne l'oubliez pas, des multitudes seront perdues parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'Église, dans les paroles d'un homme, quel qu'il soit, et non dans les paroles du Seigneur Jésus. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Parce que c'est Jésus qui le dit. Ah oui, mais moi, mon Église ne me dit rien. Ah bon? Si elle ne te dit rien, c'est pas ça qui compte. Qui a l'autorité finale? C'est Jésus. Jean 3, 7. Ne vous étonnez pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Deuxièmement, pourquoi vous devez naître de nouveau? Et là, il y a une pensée très importante. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Dans Habacuc, il est dit, chapitre 1, verset 13, il est dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Il y a là un verset extraordinaire, Habacuc 1, 13. « Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. » Voir le mal. Il y a une chose qui fait défaut aujourd'hui dans la foi de beaucoup de personnes et dans l'enseignement aussi, dans l'Église d'une manière générale. On ne prêche plus la sainteté de Dieu. Dieu est devenu un bon petit père qu'on peut taper sur l'épaule comme cela, avec lequel on peut discuter. Dieu est devenu le bon Dieu. Comme pour dire, on s'arrangera bien toujours avec toi. Même si je fais quelque chose de mal, cela n'a pas d'importance. Nous avons perdu le respect de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Parce que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint et que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas avoir de communion. C'est impossible. C'est impossible. Le Dieu saint et l'homme pécheur ne peuvent communier. Il y en a qui disent, mais moi je prie, mais moi je fais ceci, ça. Mais non, c'est une illusion. Si nous ne sommes pas nés de nouveau et que nous pensons être en communion avec Dieu, c'est une illusion. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Nous pratiquons une religion, c'est tout. Nous obéissons à des rites, c'est tout. Mais nous ne sommes pas en communion avec le Dieu trois fois saint. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Pourquoi est-ce que je dois naître de nouveau? Parce que Dieu est saint et je suis pécheur. Et quand la Bible dit que l'homme est pécheur, cela veut dire que l'homme est mort dans ses péchés. Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et quand la Bible parle en disant que l'homme est mort dans ses péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme n'a pas la vie de Dieu en lui, n'a pas la nature de Dieu en lui. Et parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, la nature de Dieu en lui, naturellement, alors il ne peut pas communier avec le Dieu trois fois saint. Pour communier avec Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Ça, c'est vital. Et par nature, nous n'avons pas la nature de Dieu. C'est pourquoi c'est un mensonge quand les gourous, ces gourous de l'Orient, de l'Extrême-Orient là-bas, qui viennent nous dire, en faisant le yoga, soi-disant, avec la méditation transcendantale, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la pensée constante qui revient? Restez tranquille et commencez à chercher Dieu qui est en vous. Si vous méditez assez, si vous restez assez, si vous êtes assez passif, comme dans le yoga et autres, vous allez découvrir Dieu en vous. Quel mensonge! C'est le plus grand mensonge que le diable ait pu dire à une personne ou à des hommes. Dieu n'est pas en nous. La nature de Dieu n'est pas en nous. La Bible dit que nous sommes morts dans nos fautes et dans le péché. Vous rappelez-vous quand le fils prodigue est revenu à la maison? Le père, qu'est-ce qu'il a dit concernant ce fils qui revenait à la maison? Voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mort? Ça veut dire que, par nature, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il était séparé de Dieu. Il ne pouvait pas communier avec Dieu. Quand Dieu vous dit et me dit que l'homme est mort dans ses péchés, cela veut dire que nous n'avons pas la nature de Dieu en nous. Et c'est seulement lorsque nous sommes nés de nouveau que cette nature de Dieu vient en nous, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que nous sommes nés de nouveau, que nous recevons la nature de Dieu en nous et que nous pouvons communier avec Dieu. Pour communier avec Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Et nous n'avons cette nature que lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel dans notre vie. Amen. La parole de Dieu dit, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui reçoivent Jésus, la parole de Dieu nous donne le pouvoir que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, Romains 8, 15, 16, l'Esprit de Dieu qui est en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La nouvelle naissance est cela. C'est recevoir l'Esprit de Dieu lorsqu'on se repent de ses péchés. C'est recevoir la nature de Dieu. Et avec cette nature seulement, nous pouvons communier avec Dieu, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi bien souvent, ces personnes religieuses qui prient, et qui disent « Mais Dieu ne m'exauce jamais » et qui n'ont jamais de satisfaction personnelle, et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas vraiment de communion. Ils pratiquent une religion, mais quant à parler de communion intime, personnelle avec Dieu, c'est un langage qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous me racontez là? Relation intime, communion personnelle avec Dieu, et tout ça, parler à Dieu comme on parle avec son Père. La preuve qu'ils ne connaissent rien du tout, c'est que Jésus est tellement loin qu'il leur faut des saints à côté pour communier avec Dieu. C'est la preuve qu'il n'y a pas du tout de communion avec Dieu quand on va chercher une autre personne. La nouvelle naissance, c'est là le miracle. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Alléluia. Jésus, le Seigneur, par son Esprit, vient habiter en nous. Et nous pouvons avoir communion avec le Dieu trois fois saint, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu n'est plus loin. Il vient faire sa demeure en nous. Nous sommes ses enfants et il est notre Père céleste. Quel glorieux message! Quelle expérience extraordinaire! Amen. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Pourquoi est-ce que je dois naître de nouveau? Premièrement, parce que Jésus l'a dit, et deuxièmement, parce que Dieu est saint. Et c'est en recevant seulement la nature de Dieu que je peux de nouveau communier avec Dieu qui est saint. Et troisièmement, pourquoi je dois naître de nouveau? Parce que vous avez une nature pécheresse. Dieu est saint, et maintenant, parce que nous avons une nature pécheresse. Un être pécheur ne peut pas communier avec un Dieu saint, c'est impossible. Voyez-vous, on peut être religieux et être pécheur. On peut être religieux et être perdu. On peut faire des prières et être perdu. On peut donner la dîme et être perdu. On peut être religieux et être perdu. Et parce que nous avons une nature pécheresse, nous ne pouvons pas communier avec Dieu. Alors, parce que vous avez une nature pécheresse, nous avons Romains 3,23. Il y a point d'exception, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Regardez ce passage. Il n'y a point d'exception, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsque la Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est nous sommes privés de la présence de Dieu. Et c'est le péché qui nous prive de cette présence. Le péché en nous. Et il n'y a pas de petit péché ou de grand péché avec le Seigneur. Tous les péchés sont mortels devant Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous les péchés sont mortels. Il n'y a pas un petit péché, un grand péché, qui fait que devant Dieu, on peut dire « Oh, ben ça, c'est pas grave, ça, c'est rien du tout ». Non, mes amis, le moindre péché est mortelle et nous sépare de Dieu. Alors nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin que quelqu'un paye à notre place. Nous sommes condamnés, nous sommes aux yeux de la justice divine, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons rien faire. Il faut que quelqu'un d'autre paye notre dette. Et Jésus était cette personne-là. Amen. La parole de Dieu dit, Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Gloire au Seigneur. Et quatrièmement, pourquoi vous devez naître de nouveau? Parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Vous devez naître de nouveau. Un miracle doit se faire en vous. Si nous voulons naître de nouveau, c'est un miracle. Vous ne pouvez pas faire ce miracle. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous le point important. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Parce que nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Plus vite nous abdiquons dans ce domaine-là, plus vite nous expérimenterons la grâce et le pardon de Dieu. Amen. Plus vite. Seigneur, je ne peux pas me sauver. Et je ne pourrai jamais me sauver moi-même. Et Dieu ne vous demande jamais de faire quelque chose pour être sauvé. Avez-vous pensé à cela? Non seulement vous, vous ne pouvez rien faire pour être sauvé, mais Dieu ne vous demande rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Dieu ne vous demande pas de faire quelque chose pour être sauvé. Mais c'est pas possible. C'est cela. Mais l'homme religieux, le croyant, il a de la peine à admettre cela. Mais quand même, je peux... Il faut quand même que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est vraiment gratuit? C'est complètement gratuit? C'est vraiment gratuit ou quoi? C'est gratuit, totalement gratuit. C'est un don gratuit. D'ailleurs, il est bien dit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous remarqué? Il est dit le don gratuit, comme si un don n'était pas gratuit. Avez-vous remarqué? C'est une répétition, là. Elle met le don gratuit. Apparemment, c'est un non-sens. Ce n'est pas un non-sens. Ça, c'est pour nous que c'est écrit. Parce que nous, même les dons, on veut les payer. Même les dons, ça, tout perd son sens maintenant. Tout est défiguré. Et Dieu nous dit, attention, c'est un don. Et ce don est gratuit. Comme pour appuyer, c'est un don gratuit. Ne cherche pas à le mériter. Tu es déjà condamné. Tu ne peux pas mériter ce pardon. C'est un don gratuit. Et c'est ce qui nous brise devant Dieu. C'est ce qui nous permet de réaliser, mais Seigneur, alors, donc par moi-même, je ne peux rien faire pour être sauvé. Oui, tu ne peux rien. Accepte le cadeau, le salut, comme un don gratuit. Alléluia! C'est pourquoi vous pouvez le recevoir à tout moment. À tout moment, nous pouvons recevoir ce don gratuit. Si vous le demandez de tout votre cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Je l'ai déjà dit en partie, mais la nouvelle naissance est un miracle. Alors, quelle est notre part? Notre part est de croire que nous sommes perdus et que nous sommes morts spirituellement. Ça, c'est notre part. Nous devons croire cela, que nous sommes perdus et morts spirituellement, que notre situation est désespérée. Il y a en nous un mal incurable. Incurable. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incurables. Nous sommes perdus. Deuxièmement, nous devons nous repentir de notre vie passée, de notre péché, de toute idolâtrie, de tout fétiche, de toute idole, de tout occultisme, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Les premières paroles de Jésus dans son ministère étaient « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Vous savez que la repentance, c'est une véritable délivrance. Dieu ne nous demande pas de faire pénitence, mais il nous demande de faire repentance. Pénitence, c'est autre chose. Il y en a qui confondent justement pénitence et repentance. Par la pénitence, nous essayons, nous, de payer notre pardon. Ah, mais je fais pénitence. Il faut que je prie 150 fois cette prière, 200 fois l'autre. Voilà. Alors, je fais pénitence. Vous voyez? Alors c'est une forme de repentance, mais c'est vous qui payez la dette. Regardez la séduction, c'est vous qui payez votre dette. Il faut marcher à genoux si de temps en temps, il faut que ça fasse mal un petit peu. Si ça fait pas mal, c'est pas valable. Jésus, il a souffert pour moi, et moi aussi je dois souffrir pour lui. Regardez ce raisonnement. Qui vient de l'enfer. Jésus a souffert afin que toi, tu n'aies plus à souffrir. Amen. Jésus a souffert, justement, toute la honte, la culpabilité de ton péché, afin que toi, tu en sois totalement délivré, que tu n'aies plus rien à faire, mais qu'à croire et à recevoir ce salut si merveilleux. Alléluia. La repentance, c'est cela, mes amis. Il y a beaucoup de gens religieux qui aujourd'hui croient en Dieu, croient en Jésus, croient en la Bible, mais ils ne sont pas passés par une vraie repentance. Ils ne sont pas passés par une vraie repentance. Autrement dit, il y a encore des idoles dans leur cœur ou dans la maison. Il y a encore des choses occultes qui traînent. On est là, on n'est pas intransigeant avec le péché, avec les œuvres du diable. On n'est pas intransigeant. La repentance, c'est cela, c'est la coupure définitive avec tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est du diable, tout ce qui est du péché. Je renonce à cette vie-là. Jésus seul doit être mon Dieu et mon Sauveur. Alléluia. Ça, la repentance, c'est cela. C'est dire, Seigneur, maintenant, c'est terminé. Je ne peux pas faire pénitence, je ne peux pas payer quelque chose, mais je me repens. À partir de maintenant, je change. La repentance veut dire changer sa façon de penser. Vous devez voir le péché comme Dieu le voit. Vous devez voir les œuvres du diable comme Dieu les voit. Nous, on dit, ah oui, mais tant qu'on ne change pas notre façon de voir le péché, les œuvres du diable, notre désobéissance, notre rébellion comme Dieu il les voit, il n'y a pas vraiment de repentance. La repentance, c'est commencer à penser comme Dieu pense. Quand Dieu nous dit « ça, c'est pas bien », nous disons « ce n'est pas bien ». Quand Dieu nous dit « tu dois renoncer à ces idoles », nous devons dire « je renonce à ces idoles ». Nous changeons notre façon de penser. Nous ne discutons plus, nous abdiquons. C'est l'abandon de nos armes. C'est l'abdication, c'est la capitulation. Si vous voulez remporter la victoire, il faut accepter de perdre la bataille. Il faut capituler. Je capitule. Je te donne toutes mes armes, tout mon être, toute ma rébellion. Tout est mis entre tes mains. Seigneur Jésus, je capitule. C'est cela, la conversion, c'est une capitulation de l'être tout entier. Et quand on se relève, Seigneur, ce n'est plus ma volonté désormais qui compte, c'est la tienne. Ce ne sont plus mes idées, c'est tes idées. Ce n'est plus ma parole, c'est ta parole. Ce n'est plus les idées d'une religion, c'est les idées de la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. Amen. C'est cela la repentance, ça va en profondeur. C'est un changement de pensée concernant le péché et tout ce qui est mal. Et c'est un changement d'action aussi. La repentance nous conduit à changer notre façon de vivre. Désormais, nous disons, Seigneur, Seigneur, maintenant je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Et il y a des choses qui changeront. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Paul disait partout où il allait. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il y en a qui disent qu'ils se repentent, mais leurs actions prouvent le contraire. Leurs actions prouvent le contraire. Nous devons produire des fruits dignes. Que nous nous sommes repentis, que Jésus-Christ est vraiment notre Seigneur. C'est alors qu'on est vraiment heureux, mes amis. Alléluia. Je vous assure, c'est quand il y a cette capitulation totale où Jésus seul est le maître de notre vie, pas quelqu'un d'autre. Pas d'autres philosophies, pas d'autres théories, pas d'autres religions, mais Jésus et sa parole, le maître en tout, par-dessus tout. S'il est le roi, il faut qu'il soit le roi dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est alors que nous expérimentons la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, donc la repentance. Et ensuite, nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À un moment donné, vous devez prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous vous repentez de votre péché et vous dites, Seigneur, maintenant, ça y est, je te reçois dans mon cœur. Ton sang a purifié tous mes péchés. Je t'accepte maintenant. Viens dans mon cœur. Je te donne toute ma vie. Et à partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. Alléluia. Et pour obéir à ta parole. Et un quatrième point, pour terminer. Une fois que Jésus-Christ est en vous, vous devez le dire autour de vous. Vous ne devez pas avoir honte de témoigner autour de vous. La preuve que quelqu'un est vraiment né de nouveau, c'est qu'il parle aux autres. Amen. L'expérience que vous avez vécue, vous ne pouvez pas la garder pour vous-même. Moi, quand j'entends certains dire, « Oh, mais vous savez, il faut chacun sa petite religion. » Mais je me dis tout de suite, c'est que « Oh, mais ta religion n'a pas grand-chose à te donner. » Ta religion n'a pas grand-chose à te donner si tu n'as pas envie de le dire aux autres. Autrement dit, ta religion te rend misérable, alors je n'essaie pas de rendre les autres misérables, c'est ce que tu veux dire. J'ai compris, d'accord. Oui, il faut pas en parler aux autres. Oui, d'accord, c'est sûr. Tu es tellement misérable avec ta religion qu'il faut la garder, d'accord. Oui, ne communique pas aux autres ta misère, c'est vrai. Oh, c'est sûr, oui, naturellement. Il vaut mieux que tu te taises. Mais avoir une religion, cela ne veut pas dire être sauvé, être né de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, que Jésus-Christ est venu nous pardonner, qu'on s'est repenti, qu'il est le maître de notre vie. Alors, mes amis, on devient une nouvelle créature. On a quelque chose à dire aux autres. On expérimente la paix de Dieu, la joie de Dieu, la victoire. Alléluia! Nous avons quelque chose à dire. Autrefois, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Et maintenant, je vis dans la lumière. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et quand on est né de nouveau, un autre point. Oui, je rallonge mes points. Mais un dernier point important. Un dernier point. Quand on est né de nouveau, on a besoin de se rassembler avec les autres. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Un chrétien né de nouveau, il ne peut pas vivre tout seul, c'est impossible. Il doit se rassembler avec d'autres, avec les autres. Il a besoin d'être encouragé, il a besoin de se tenir avec les autres. Vous ne pouvez pas vivre tout seul. Comme moi, je ne peux pas vivre tout seul. Vous ne pouvez pas vivre tout seul. On a besoin de cette communion avec les autres. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas se joindre à d'autres chrétiens, eh ben, c'est révèle par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son expérience chrétienne. Mais quand on est vraiment né de nouveau, notre désir est d'être avec d'autres frères et sœurs qui ont fait la même expérience et qui marchent avec le Seigneur. Alléluia! Ensemble, nous avons besoin de prier, de louer, de bénir, de prier les uns pour les autres. C'est une vie totalement nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous né de nouveau? Ce n'est pas un processus, c'est une expérience personnelle, instantanée. Lorsqu'on s'en repent de son péché et qu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et que l'on confesse devant les hommes que désormais Jésus est notre maître. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Êtes-vous né de nouveau? Que le Seigneur fasse la grâce à tous ceux qui entendent ce message de passer par cette nouvelle naissance et de voir le royaume de Dieu. Une vie nouvelle commence. Que nous avons en nous et que nous communiquons autour de nous, de tout notre cœur, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Ô Seigneur, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta parole. Seigneur, tu nous étonnes comme tu as étonné Nicodème, mais nous voulons nous laisser étonner, Seigneur, et bousculer. Et je veux que tu me bouscules, Seigneur. Je ne veux pas rester esclave d'une tradition, d'une religion, mais je veux être esclave de Jésus-Christ et de sa parole. Alléluia. Oh, nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Tu veux des hommes et des femmes entièrement pour toi. Oh, alléluia. Et alors, Seigneur, ces hommes et ces femmes expérimentent quelque chose de glorieux qu'ils peuvent et qu'ils doivent communiquer aux autres. Et c'est ce dont le monde a besoin pour entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes zélés pour toi, qui reçoivent ta grâce, la nature de Dieu en eux, par la nouvelle naissance, et qui le disent autour d'eux, afin que beaucoup fassent cette expérience et soient sauvés aussi, et soient un jour avec nous dans ce ciel de gloire. Avant que la nuit vienne où personne ne pourra travailler, aide-nous, Seigneur, à être fidèles, persévérants et courageux aussi, annonçant ta parole et ta parole seulement. Au nom de Jésus. Amen.